Alors maintenant sur la série.
Un doodle ?
Non, non. Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et c'est.
On ne sait même pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une oui. contrepétrie avec urne et j'ai.
J'y passe tous les jours.
Alors merci à tous pour vos chroniques. On ouvre maintenant le dernier temps de notre émission. On en a l'habitude maintenant. Vous en avez l'habitude maintenant, chers auditeurs. Notre discussion. Alors j'aimerais revenir un petit peu sur l'actualité en général. C'est vrai qu'on parle pas mal du FN en ce moment et de cette guerre. Vous l'avez évoqué entre Jean-Marie et Marine, avec Marion qui ne sait pas trop où se placer entre les deux. Tu nous disais, Jérémy, que les journaux abordaient très peu le fond. Et justement, qu'en est-il de ce fond? Qu'est-ce qu'on a comme dissension idéologique entre les Le Pen, père et fille?
Mon impression, c'est que c'est tout sauf une affaire de famille. Il y a vraiment un fond politique là-dedans et c'est pour ça que ça prend une telle violence. Le FN de Marine Le Pen, ça n'a vraiment rien à voir, quoi qu'on puisse lire, avec ce que c'était le FN dans les années 90, qui était un parti complètement ultra-libéral.
Oui, Thatcherien dans son âme.
Reagan comme grand modèle. Alors le nationalisme n'a pas tout à fait changé, mais il a pris une coloration beaucoup plus sociale ces derniers temps. Et aucun des journalistes ne souligne ce fait. Le FN de Marine Le Pen, c'est devenu un parti qui tient grosso modo un discours souverainiste, social. C'est en fait le même discours que Chevènement il y a 10 ou 15
ans.
Juste pour nuancer ça, je pense que les militants, au fond, ils sont pas changés.
Oui, c'est ça le problème.
C'est ça le problème, en fait. Entre guillemets, ça craint encore. Enfin, voilà. Et moi, ce qui m'énerve plus, c'est le traitement qu'on en fait, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir des déchirures familiales, people.
Oui, c'est ça.
Et je trouve que ça contribue aussi à susciter la sympathie aussi des gens. Vous voyez,
oui, parce qu'il y a quelques mois, c'était Marine Le Pen qui avait quitté la maison familiale de Saint-Cloud,
voilà,
parce que Sacha du Bengale avait été tué.
C'est ça, voilà. Donc du coup, je trouve que on a un traitement médiatique qui est vraiment très malsain, parce qu'on a l'impression du coup que c'est des gens comme les autres, et on les présente limite en le fait de les mettre comme ça, mettre leurs affaires familiales comme ça, sous le feu des projecteurs, ça contribue à mon avis à dédiaboliser entre guillemets leur discours.
Oui.
Et voilà.
Et puis on les voit qui font la une de la presse et j'ai l'impression que le Népal, lui, où il y a quand même eu des milliers de victimes, a complètement disparu des radars. On le croit vraiment plus dans la presse en ce moment.
Non, rien du tout.
C'est dramatique.
On parle à l'occasion des disparus français qui sont toujours disparus.
Cocorico.
Donc, on en parle encore un peu, mais sinon, effectivement, on évoque pas beaucoup le Népal.
Alors, changeons de sujet maintenant. Sur la loi sur les renseignements, j'ai prévu aucune relance, mais j'imagine que vous avez envie de réagir.
Tu as dit tout à l'heure que la mobilisation citoyenne avait été assez forte, en fait, quand même, au vu auprès des députés, etc. Moi, je pense qu'on ne s'est pas assez mobilisé quand même. Enfin, bien sûr, il y a toutes ces associations qui ont été à Paris, qui ont appelé les députés en un, ce qui n'a pas empêché que la loi soit votée à une très, 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 très large majorité. Bon, il y a une pétition qui circule sur Internet, mais c'est vrai que est-ce qu'on est réellement conscient de ce que ça va apporter pour nous? Est-ce que
non,
c'est une question de toute manière très difficile. Hein. C'est la sécurité contre un peu plus de liberté qu'on ne peut pas trancher comme ça.
Et moi, ce que j'ai lu, enfin, les députés qui ont voté pour, ils ont voté. Enfin, ils disaient qu'ils avaient aussi voté sous le coup de la peur, parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu le fameux attentat qui a été évité, etc. Bon, et en fait, ce qu'ils ont peur, c'est que si jamais il y a un attentat, qu'on leur reproche de ne pas avoir fait. Ce qu'ils auraient pu faire, de ne pas l'avoir détecté simplement à cause de ça. Mais le problème, c'est qu'après, on n'a pas montré l'efficacité de...
Oui, et puis la mobilisation, il faut être honnête, elle a été relativement importante, mais elle a été pilotée et lancée par des journaux un peu alternatifs. Mediapart, c'est pas un journal de masse, loin de là. Amnesty International, c'est pas une association de masse non plus. Donc c'est vrai que c'est resté dans un milieu...
Voilà, ouais, et je crois qu'il y a un effet loupe. On a l'impression que la mobilisation est forte, mais en fait, elle est forte que dans une certaine frange de la société civile, et pour le reste, que dalle. Hein.
Qui est éduqué et qui peut aller voir dans le détail.
Jeune, éduqué, connecté, enfin c'est pas la majorité. Hein. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, c'est que vraiment tous les partis politiques sont divisés sur la question.
Oui.
Et
ça,
le
c'est
seul
très intéressant.
Qui est vraiment unanime, c'est le FN. Et c'est le seul qui est à peu près clair de ce point de vue-là. Même au front de gauche, où on aurait pu s'attendre à un rejet de ça, certains communistes ont voté pour.
Enfin, oui.
Mais c'est hyper compliqué, parce que c'est vrai que, mine de rien, on est quand même dans une psychose, on a peur quoi, depuis le mois de janvier. Et voilà, et moi je pense que, enfin après je sais pas trop, mais il me semble qu'il y a aussi des enjeux économiques derrière. Plutôt que d'embaucher davantage d'agents pour filtrer et surveiller les terroristes potentiels et les personnes vraiment à risque,
là on fait. Le budget de la défense a reçu une rallonge de plus de 3 milliards d'euros pour l'année prochaine, quelque chose comme ça.
Ouais, voilà, et ben là on fait des logiciels, etc. On sort un mécanisme de surveillance où on ramasse tout et c'est pas comme ça qu'il faut faire.
Ce qui témoigne aussi peut-être d'un changement. En ce moment, on passe peut-être d'une guerre dont on avait l'habitude, traditionnelle, avec des armées qui débarquent dans un territoire, etc. On passe aussi à un nouveau type de guerre qui est celui de la cyberguerre. Alors, on s'éloigne un peu du thème du renseignement, de la surveillance des gens. Mais c'est vrai que récemment, j'ai lu que les États-Unis avaient eux aussi accru le budget de la défense, mais... en termes de cyberguerre, qu'ils ont créé un nouveau département, etc. Et ici, en France, on est quand même très en retard. Certes, on donne de nouveaux moyens à la défense, mais toujours dans le cadre un peu plus traditionnel des armées, etc. Donc, est-ce qu'on ne serait pas un peu en retard à ce niveau-là? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, c'est un thème connexe à ce
point d'enseignement. Il y a beaucoup de choses à cacher. Enfin, vous avez vu l'histoire avec Angela Merkel, les Allemands qui espionnent les Français.
On n'en a pas parlé, mais on aurait pu consacrer
Personne au gouvernement, ni Hollande, n'a rien dit.
Très ironique.
À mon avis, je pense que...
C'est complètement fou que ça vienne des parlementaires allemands qui disent « Mais vous avez espionné les Français, c'est absolument honteux. »
Mais je pense qu'on ne doit pas avoir les mains toutes propres non plus, en fait. Je pense que c'est surtout ça, quoi.
Sur cette question noire et sur ces émeutes à Baltimore, je lançais le thème des autres minorités, notamment la communauté hispanique, qui fait aussi, je crois, face à pas mal de problèmes un peu similaires à ce qui a pu arriver au Nord, des problèmes de discrimination.
Oui, c'est vrai, mais le cas est peut-être un peu différent. Ils n'ont pas tout ce passif que les Noirs ont aux États-Unis.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu l'esclavage.
C'est vrai. Et un peu comme la communauté noire d'ailleurs dans les années 60, on a des hommes politiques latinos qui commencent clairement à monter. Oui. Et il faut savoir aussi que la communauté hispanique aux États-Unis ne cesse de croître.
Oui,
vraiment.
C'est un enjeu électoral.
C'est un nouvel enjeu électoral. Alors comme l'est d'ailleurs les Noirs, comme le sont aussi les femmes, par exemple pour Hillary Clinton, etc.
Oui,
Mais pour les latinos,
il me semble qu'il y avait eu des études de prospective électorale qui montraient que si le Parti républicain ne changeait pas son discours, il n'avait plus aucune chance de remporter les présidentielles. Parce que c'est une minorité qui va vers les démocrates.
Exactement, oui.
Alors oui, et donc oui, toi Jérémy, tu t'as noté, je t'ai vu noter sur ton petit carnet pendant que je le faisais aussi, cette question des dispositifs de surveillance.
Bah oui, ce qui m'a amusé, c'est que tout ça est filmé, donc on a parfaitement conscience que les violences viennent des policiers et de leur intensité, et ça change rien. Donc
alors ils n'ont pas encore de caméra embarquée dans leur voiture, c'est une loi qu'ils veulent mettre, mais c'est vrai que en fait de plus en plus d'arrestations sont filmées et qu'elles sont diffusées sur la toile. Ça a été le cas très récemment, mais toujours rien. Enfin, je veux dire, c'est assez hallucinant ce qui se passe. Et on l'a vu à Ferguson, le policier qui a tué le jeune a été disculpé en fait, donc il a bénéficié d'un non-lieu. Donc c'est vrai que ça nous paraît un peu...
Oui, mais nous, ça nous paraît complètement fou. Mais en même temps, c'est pas François Hollande qui voulait mettre en place les caméras embarquées pour les policiers qui surveillaient les manifestations et compagnie dans le cadre de toute cette question des violences. Et c'est vrai qu'on n'entend plus parler non plus, donc...
Surveiller ceux qui nous surveillent. Voilà. On commence à rentrer dans un cercle un peu...
Ça devient un peu orwellien. On a beaucoup parlé des femmes aujourd'hui. Alors c'est dans Libération que s'est parue cette chronique.
Je ne sais plus quelle grande PDG ou une femme qui avait de grandes responsabilités qui avait déclaré récemment, je ne me souviens plus de son nom, qu'être sifflée dans la rue, c'était finalement somme toute assez agréable.
Oui, c'est ça.
Alors ça, c'était encore plus...
Parce qu'elle ne va pas être souvent sifflée dans la rue.
Oui, je suppose que oui. Non. Voilà, c'est ça. C'est
comme ça, elle a un vrai davantage.
Puis si elle a intériorisé comme ça la domination qu'on lui fait subir, c'est assez violent, je trouve.
Non, mais c'est... Enfin, je sais pas, il n'y a pas de mots. Enfin...
Non, puis par rapport à ça, le nombre de femmes en politique, je veux dire, on a imposé la parité au cantonal, mais il y a toujours 10% de femmes présidentes de conseil général, même si on a la parité officiellement.
Et 29% de femmes à l'Assemblée.
Oui.
Là, en plus, on parle des journalistes. Enfin, qui doivent subir des... des avances ou des remarques sexistes ou misogynes, et c'est quand même scandaleux de ne pas avoir le respect de la personne à qui on s'adresse.
Oui, c'est juste,
en plus, je ne sais pas, c'est une question fondamentale simplement de respect, et de voir que nos hommes politiques sont toujours engoncés dans ces schémas. C'est quand même.
Non seulement nos hommes politiques se croient parfois un peu tout permis avec des journalistes, mais c'est encore plus flagrant dans le cas des femmes, ou parce que ce sont des femmes, là, visiblement plus aucune barrière sociale ne.
Mais moi, après, j'ai lu qu'il y avait aussi quand même un effet de génération, où en gros, c'était les politiques, les poids lourds, en gros, des régionaux, etc., de différents partis qui étaient nés dans les années 40-50. Et qui se permettait
qui avait grandi dans des schémas effectivement
très patriarcaux et tout ça.
Voilà, où l'avortement était encore illégal.
Ah, mais c'est des. Enfin, moi, j'ai lu rien que les remarques en fait. Et puis, ce qui est bien, je trouve qu'avec ce genre de tribune, c'est qu'on se rend. On est obligé d'y réfléchir, quoi. Et on se rend compte qu'en fait, c'est pas normal.
Parce que tu disais, le fait qu'elle reste anonyme, ce qui nous choquerait, comme tu le dis, si c'était des noirs ou une autre minorité, ça nous choquerait. Là,
on se remettrait en question. Là, on dit, bon, bah, les pauvres, seraient que elles ont. Enfin, on les imagine, etc. On se dit, ouais, vont avoir des problèmes, etc. Et on va rien faire. On va pas réagir.
Ce qui est quand même complètement fou de penser comme ça.
Et je sais pas trop après l'arsenal juridique qu'il y a derrière les condamnations du sexisme par rapport aux condamnations racistes, etc. Mais en fait, c'est exactement la même chose. On ramène la femme à ses soi-disant, elle est hystérique, elle est mal baisée, elle est de la même manière qu'on pouvait avant ramener les noirs, ils sont rieurs, paresseux, etc. C'est des schémas et le problème, c'est que tout le monde prend ça à la légère et là, beaucoup de femmes aussi prennent ça comme si c'était normal et n'en ont même pas conscience et c'est dramatique.
Alors merci à tous pour cette discussion et pour ce numéro de manière générale qu'il est temps de conclure. Merci à Léo, à la technique et au jingle. Et nous on se retrouve dans 2 semaines pour le 6e numéro qui sera le dernier de cette première saison parce que malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin. Et pour ce dernier numéro, on finira sur une note radiophonique en revenant un petit peu sur la grève qui a bloqué Radio France pendant près d'un mois. Nous avons réalisé quelques interviews en marge de la journée de la radio et nous vous proposons une enquête au format un petit peu élargi pour comprendre les tenants et aboutissements de cette grève. D'ici là, portez-vous bien, écoutez la radio, suivez l'actualité et à dans 2 semaines. Right.